Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. La mondialisation, on le sait, affecte aussi la production culturelle et celle-ci, plus que d'autres, reste d'abord américaine. Aux mythes universels forgés ou transformés par Hollywood ont succédé d'autres héros récurrents qui ont rarement le beau rôle et dont les péripéties collent au plus près des agitations du monde. Les séries télévisées ont pris le pas sur le cinéma pour animer la culture populaire. Nous en sommes tous les victimes, plus ou moins consentantes, mais il est vrai qu'on n'échappe plus à la maison Lannister de Game of Thrones, à Carrie Mathison et au sergent Brody de Homeland, ou à Frank Underwood, le président de House of Cards, dont le portrait, ou plutôt celui de l'acteur Kevin Spacey, a été ajouté ces jours-ci à la galerie présidentielle de la National Gallery à Washington, un joli coup de pub pour lancer la nouvelle saison. Reflet du rêve et des cauchemars américains, pourquoi une telle empreinte planétaire pour ces séries? Comment expliquer dans un autre registre la fascination chinoise pour la famille Crowley et le majordome de Downton Abbey? En France, les scénaristes et les producteurs restent-ils plus frileux qu'ailleurs? Du cinéma aux séries d'aujourd'hui, jusqu'à quel point la fiction exprime-t-elle mieux qu'auparavant les tourments du monde contemporain? Peut-on réellement en faire une lecture géopolitique ou s'agit-il plus prosaïquement d'une adaptation de l'industrie culturelle aux appétits d'un public mieux informé et beaucoup plus mobile? C'est ce que nous allons explorer grâce à vous, Dominique Moisy. Vous êtes conseiller spécial de l'IFRI, professeur au King's College de Londres, et vous venez de publier un petit ouvrage jouissif sur cette question. Mais François Jost, qui est aussi avec nous, professeur à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, directeur du laboratoire communication, information et médias, monsieur Jost, vous étiez déjà intéressé à cette question avant Dominique Moisy. Avec nous aussi, un grand amateur de séries, ai-je découvert, Camille Grand, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, et Fabrice d'Almeida, professeur à l'Université Paris 2, Panthéon Assas. Fabrice d'Almeida, vous êtes historien des médias. Le week-end dernier ont eu lieu successivement les cérémonies des Césars et des Oscars. Le cinéma, bien sûr, reste un formidable outil culturel, mais comment expliquez-vous ce basculement qui s'est opéré en faveur des séries qui maintenant sont à la fois mondialisées et atteignent par millions des publics très différents?
Mais le rapprochement fait sens puisqu'au fond, tout cela part des studios et des grands studios américains qui étaient ceux qui nous ont fait rêver avec les stars dès les années 1900-1920, qui se sont organisés et qui, au fond, à un moment donné, ont commencé à fournir la télévision au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et progressivement, ce qui était considéré comme relevant essentiellement du marché domestique a commencé à faire l'objet de très grosses exportations, à partir des années 60. Il faut se souvenir qu'en France, par exemple, il y a eu un feuilleton, je ne sais pas si on s'en souvient autour de cette table et ailleurs, qui s'appelait Au nom de la loi, avec Steve McQueen, qui a été une des premières, j'allais dire, séries emblématiques qui est arrivée sur notre territoire. Et puis ensuite, il y a eu la saga qui a, à mon avis, fait le grand transfert culturel que Dominique Moisy évoque, justement, en disant qu'il s'agit beaucoup de modes de vie. C'est Dallas. Il y a eu d'ailleurs une belle étude réalisée par deux Américains, notamment Eliu Katz, sur la réception de Dallas dans le monde. Il y a un seul pays où ça fait un bide. Lequel ? Le Japon. Donc vous voyez qu'avec les séries, on est très vite dans la géopolitique. Ça ne marche pas au Japon alors que ça marche en France, ça marche en Côte d'Ivoire, ça marche en Israël où c'est reçu de manière très différente. Et au fond, les studios ont eu le sentiment qu'avec un investissement relativement faible comparé à certains films, faut bien être d'accord là-dessus, il y avait une capacité d'amortissement beaucoup plus fort par le marché des télévisions américaines avec le jeu des rediffusions et ensuite d'exportation. Et il faut savoir que les séries, c'est le gros enjeu, y compris pour nous Français, c'est la question d'exportation. Nous sommes un des plus gros investisseurs mondiaux en séries et un des plus petits en matière d'exportation.
Et là,
donc c'est notre drame.
Voilà, et ça explique que Versailles ait été tourné en anglais, par exemple.
En anglais, 27 millions d'investissements, un géant à l'échelle de la France.
Les chiffres sont spectaculaires. Hein. Je crois que la production américaine aujourd'hui, c'est plus de 400 séries, plus 94% en 5 ans. Ce qui veut dire que le public est tellement segmenté qu'il y a presque une série par
400, dont 159 par an. C'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire qu'il y a de la 400, mais il y en a 159. C'est-à-dire qu'ils essayent beaucoup plus que n'importe qui au monde.
Alors, il faut dire aussi que les supports ont complètement changé.
Effectivement. Là, c'est la révolution dont on aura sûrement à parler. Hein. C'est qu'aujourd'hui, avec le numérique, avec le web, avec les télévisions elles-mêmes connectées, il y a les possibilités de voir les séries et les films d'une manière décuplée par rapport au passé. Et ça, un peu partout sur Terre, avec des systèmes de traduction instantanée qui peuvent même permettre à un Chinois qui ne parle pas anglais de regarder une série.
Et on voit que maintenant, les grands cinéastes ne boudent plus les séries. Martin Scorsese sort une série qui s'appelle Vinyl.
Oui,
Apatow, quelque chose qui s'appelle Love. Enfin, ça n'en finit pas. Les plus beaux noms.
C'est devenu la référence, mais c'est aussi l'endroit où le public se trouve. Donc, on suit le public quand on est artiste.
Alors là, on va faire plaisir à Dominique Moisy.
Winter is coming.
Knowledge is power.
Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Power is power.
Et ça, évidemment, c'est Game of Thrones. Alors, pourquoi cette fascination pour Game of Thrones?
Parce que c'est un cours de géopolitique. Parce qu'on peut le voir comme une lecture obscène au temps des dragons. Parce que, de manière plus immédiate, quand on voit Game of Thrones, on ne pense pas au Moyen-Âge, on pense au Moyen-Orient. Et on se demande si le Moyen-Orient de Daesh n'est pas tout simplement une illustration réelle de Game of Thrones.
Oui, mais ça, c'est la transposition que nous faisons, nous.
Oui.
Alors qu'il y a énormément de séries où le Moyen-Orient et Daesh sont une matière première au premier degré.
Oui.
C'est le cas de Homeland, bien sûr. Je lisais quelque part que cette très vieille série là, qui a été réactualisée aussi utilise le Moyen-Orient. Venez à mon secours. Comment s'appelle-t-elle là, l'inspecteur et l'inspectrice, je vais retrouver ça.
Ah oui, 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 X-Files.
X-Files. X-Files, voilà, eux aussi ils ont découvert le djihad. Donc, Dominique, ce n'est pas seulement, comment dire, le reflet d'une situation politique donnée dans une partie du monde donnée, c'est bien évidemment aussi notre imagination,
oui,
notre grille de lecture, à nous.
Il y a la phrase culte, « Winter is coming », au moment où l'on parle du réchauffement climatique, cette inversion est intéressante, mais elle traduit en réalité notre appréhension devant le présent. Winter is coming, l'hiver approche, mais la nuit du 13 novembre 2015, nous n'avons pas le sentiment que winter is coming. Nous avons le sentiment profond que l'hiver est arrivé, qu'il s'est déjà installé. Et cette formule, eh bien, elle résume en quelque sorte toutes nos peurs par rapport à la montée de la barbarie. Il y a une multitude de situations. Vous ne comprenez plus ce qui se passe. Les combats dans Game of Thrones sont fascinants sur ce plan parce que vous ne savez pas qui se bat contre qui dans une atmosphère avec une lumière qui fait que vous ne distinguez plus les combattants. Est-ce que ce n'est pas une traduction des relations internationales aujourd'hui.
Mais ça, c'est l'œuvre donc d'un écrivain américain qui a écrit ça, si ma mémoire est bonne, il y a une quinzaine d'années. Ça a été transposé ensuite. Alors, François Jost, qu'aujourd'hui, encore une fois, dans une série comme Homeland, on voit que l'actualité, quasiment de mois en mois, est récupérée, utilisée par les scénaristes, qui collent au plus près de tout ce que l'on suit aux informations.
Oui, mais je crois qu'il faut le relier à la question que vous posiez tout à l'heure sur comment on est passé du cinéma aux séries. Il y a ce que vous dites, c'est-à-dire que le cinéma nous présentait, le cinéma américain, des grands héros avec le bien, le mal, des héros qui nous surplombaient, enfin je veux dire, qui étaient au-dessus de nous, etc. Et les télévisions ont eu besoin à un moment de faire des fictions, d'une part, qui touchent les gens directement avec des personnages qui ne les écrasent pas, mais qui leur ressemblent, et d'autre part, évidemment, ce qu'a apporté... parce que toutes les séries dont on parle aujourd'hui sont des séries feuilletonnantes, ce qui est très très différent de ce qui se passait dans les années 80. C'est-à-dire qu'on est obligé de suivre, et donc les chaînes ont trouvé une occasion dans les séries de présenter un univers qui était déjà connu, qui était déjà familier à des gens, qu'ils retrouvaient à chaque fois. Le cinéma oblige à toujours faire un nouvel effort pour entrer dans une nouvelle fiction. Là, on avait une suite. Donc,
et une suite avec donc une évolution.
Une évolution très importante, psychologique et plus que psychologique. Par exemple, j'ai souvent dit que dans une série comme Homeland, vous avez évidemment Brody, vous avez tous les personnages, mais vous avez aussi sa fille, Dana, qu'on voit vieillir. C'est-à-dire que on dit, tiens, ah bah maintenant elle est ado, tiens, la petite Dana, elle a grandi.
Tiens, elle a maigri.
Voilà, ou elle a maigri. Donc, on suit notre propre vieillissement, notre propre temps dans ces séries. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus humain, j'allais dire, bah c'est la quotidienneté. Et ce qu'ont fait ces séries, c'est finalement surtout aller vers la quotidienneté. Donc l'actualité, moi je distingue deux types d'actualité. Une actualité événementielle, ce que j'appelle la dispersion, ça change tous les jours. Mais le génie américain, si je peux dire, en matière de séries, ça a été l'immersion. Ça a été de trouver des moments historiques, je vais sur le terrain de Fabrice d'Almeida, des moments historiques qui étaient mondiaux. C'est-à-dire que, vous savez, comme les séries ont changé, après 2001, on est dans des séries de l'après 2001, on fait plus les séries de la même façon. Ça motive que l'on peut être torturé dans 24, ça motive que les choses sont beaucoup plus expéditives. Et Homeland réussit à parler, effectivement, de non pas d'une métaphore de Daesh, mais de Daesh. On a un camp de réfugiés en Allemagne dans la dernière saison de Homeland, et c'est à partir de là que se trame l'histoire. Donc, c'est notre quotidienneté, non seulement d'intimité de notre famille, mais une quotidienneté aussi médiatique. C'est-à-dire qu'on est dans le monde de l'information.
Et c'est là, Dominique Mauzier, on retrouve votre thème central. Vous aviez publié un livre sur les émotions, et là vous dites, en gros, ces séries traduisent la peur, c'est-à-dire que la peur serait notre état d'esprit, notre état permanent.
C'est-à-dire dans les séries...
À nous autres occidentaux.
Oui, bah, si vous regardez les séries principales qui font l'objet de la géopolitique des séries que je viens de publier, vous avez la fascination peur pour le chaos qu'on retrouve dans Game of Thrones, vous avez l'Amérique face au terrorisme, Homeland. Vous avez la crise de la démocratie, du modèle, du rêve américain qui est House of Cards. Vous avez le retour de la menace russe dans une excellente petite série norvégienne qui s'appelle Occupied, qui est un vrai cours de géopolitique. Et vous avez une réflexion nostalgique tocquevillienne avec Downton Abbey, le passage d'un ordre à un autre. L'ordre aristocratique anglais disparaît pour faire place à l'ordre démocratique beaucoup plus inspiré de l'Amérique. Et on est vraiment dans la démocratie en Amérique de Tocqueville.
Et il y a une autre nostalgie que l'on voit Camille Grand dans une série qui se rapproche de la géopolitique à l'ancienne, le temps heureux, si j'ose dire, de la guerre froide, avec cette série qui s'appelle The Americans. Oui. Donc un couple d'espions soviétiques implantés dans Washington. Et ça, c'était très singulier de voir apparaître cette série. C'était quand ça, l'année dernière, il y a deux ans?
Ça fait deux ans. On est dans quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire le retour de la guerre froide, mais là comme objet d'étude, avec en quelque sorte les séries qui s'inscrivent dans ce temps de la guerre froide, qui nous ramènent la guerre froide dans ses détails, alors à travers les personnages d'espions souvent, et finalement qui nous rappelle en miroir par rapport à Occupied que Dominique Mauzier évoquait à l'instant. Occupied, c'est une dystopie avec des Russes qui font pression sur la Norvège, une Amérique absente, des Européens divisés et fourbes, et des Norvégiens eux-mêmes en essayant de résister à cette pression russe. The Americans, là on est devant quelque chose où on renvoie à la grande époque des espions dormants. On est dans, un peu dans un roman de Jonathan Little ou quelque chose comme ça. C'est un grand classique d'espionnage.
Avec les voitures, les bruits.
Voilà, on retrouve tous les bruits et les scènes de l'espionnage classique. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'idée qu'on construise une série sur un espion russe déguisé parmi nous, comme ça, me paraît très intéressante sur l'ambiance et ce que ça dit finalement des préoccupations d'Hollywood qui sont finalement le reflet des préoccupations de nos sociétés.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit dans certains cas le rebond entre la fiction et le réel. Occupied n'a pas du tout fait plaisir au Kremlin.
Non. Alors ça, c'est une des choses que je trouve les plus amusantes dans ce lien entre les séries et ces questions stratégiques, c'est que c'est pris très au sérieux, notamment par les régimes un peu autoritaires ou franchement dictatoriaux. Il y a deux cas intéressants, c'est une démarche formelle des Russes pour se plaindre d'Occupied, pour dire qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça donne une très mauvaise image de la Russie, c'est une mauvaise manière qui est faite à la Russie par la projection de cette série dans les pays nordiques, par sa diffusion, etc. Donc, une protestation quasi officielle. Et il y a le cas le plus extrême et presque le plus amusant, qui est l'attitude des Nord-Coréens, alors là, vis-à-vis du cinéma, qui ont protesté de manière très officielle à la fois sur le film The Interview, qui a quand même donné lieu à une vraie crise cyber, puisqu'on soupçonne les Nord-Coréens d'avoir attaqué les studios Sony pour se venger de ce film comique qui tournait en dérision le leader nord-coréen. Et ils ont également fait des démarches formelles, diplomatiques, pour se plaindre du film White House Has Fallen, Olympus Has Fallen, qui était un film d'action hollywoodien sur une attaque de la Maison Blanche par des Nord-Coréens, pour dire il faut pas diffuser ce film qui donne une très mauvaise image de nous. Donc on a quand même constamment cet aller-retour entre la politique et le cinéma ou les séries.
Fabrice Albéda, vous avez beaucoup travaillé sur la propagande, justement. Mais là, on est...
Oui, mais c'est ce qui me frappe. Là, en écoutant Camille Grand, je me disais, c'est complètement fou, parce que le feuilleton, en fait, remplit une fonction similaire à celle qu'on avait au 19e siècle avec les grands feuilletons écrits. En fait, on a inventé la littérature au 19e siècle avec le feuilleton. Il faut penser à Jules Verne, à Dumas, Eugène Sue. Et on n'imagine pas le tsar se fâcher à cause du colonel Chabert. On n'imagine pas le tsar ou l'Angleterre se fâcher à cause du tour du monde en 80 jours ou la Chine à cause des tribulations d'un Chinois en Chine. Et c'est là où il y a quelque chose de fou dans notre monde. C'est à quel point on prend ces logiques d'image comme, au fond, l'alpha et l'oméga de la diplomatie. Et là, c'est une petite critique que je voudrais faire pour lancer le débat avec Dominique Moisy. C'est que, justement, lui, il y a des moments dans le livre où il polémique avec les personnages des séries. J'étais très frappé de ça, notamment sur la perception qu'ils ont de la géopolitique. Il dit, mais attendez, c'est pas tout à fait juste,
c'est pas sérieux,
par rapport à ce qu'ils pensent de la Russie. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans cette interaction que vous venez de souligner entre le réel et la fiction, la volonté, vous l'avez souligné, Christine, de faire rentrer le président du feuilleton dans un musée sous forme de figurine de cire. On tourne un peu à l'absurde. On voudrait rendre ces séries réelles.
Oui, mais il y a un moment... C'est l'histoire vraie. Bill Clinton rencontre Kevin Spacey, donc l'acteur du président Underwood dans House of Cards, et lui dit « J'adore votre série. D'ailleurs, 99% de ce que vous décrivez est tout à fait conforme à la réalité. Il y a juste 1% qui est vraiment une illusion totale. Jamais, en tant que président, je n'aurais pu faire passer une loi sur l'éducation en moins d'un mois au Congrès. » Et bon, il y a, bien entendu, il s'amuse, mais il s'amuse de manière sérieuse. Et à l'inverse, et c'est là où... La Corée du Nord est furieuse, la Russie proteste, mais je crois savoir que les dirigeants chinois sont ravis de la série House of Cards, car intérieurement, ils se disent « mais les Américains nous donnent des cours de démocratie, mais pour qui se prennent-ils ? Nous avons vu House of Cards. En fait, il n'y a pas de différence. »
Mais est-ce que House of Cards est autorisé en Chine pour le grand public ? Parce que c'est quand même la grande différence par rapport aux feuilletons écrits.
Non, tout à fait.
Maintenant, c'est massifié. L'audience est massifiée.
Non, mais la question pour le public, je ne sais pas. Mais les élites le voient. Il n'y a absolument aucun doute à cela. Et la fameuse formule du président Underwood, « Democracy is grossly overrated, seriously overrated », la démocratie, c'est sérieusement surfait, c'est une formule qui ravit tous les régimes autoritaires.
Oui, que Donald Trump, d'ailleurs, pourrait prendre à son compte. François Jost, quand on se souvient de James Bond, il y a eu un James Bond récent. Là, on voit comment ce personnage, aujourd'hui, paraît extraordinairement simplet ou unidimensionnel par rapport aux héros ambigus. Des séries.
Mais en même temps, c'est vrai que le dernier James Bond est une sorte de, comment dire, de conséquence des séries. C'est-à-dire que je suis allé voir le dernier James Bond en me disant encore James Bond, j'en ai vu plein, ça va être toujours le bien contre le mal, etc. En fait, c'est pas ça. C'est-à-dire que dans le dernier film, James Bond est un type qui est sur la touche un peu. On veut supprimer les 00 parce qu'on pense que c'est plus du espionnage d'aujourd'hui, que ça correspond plus du tout à ça. Et finalement, il est un petit peu comme les personnages des séries, c'est-à-dire qu'il est un petit peu cabossé, comme on dit, un peu usé, etc. Mais ce qui est intéressant dans James Bond et qui nous rapproche de ce qu'on est en train de discuter sur les séries, c'est qu'au fond, hier, dans James Bond, c'était la bombe atomique, c'était détruire le monde. La menace de James Bond aujourd'hui, c'est le plan qui s'attaque à 9 pays, au contre-espionnage de 9 pays. Et donc, en fait, c'est maîtriser l'information qui devient l'enjeu.
Et les réseaux.
Voilà, c'est maîtriser. Et il y a une sorte d'équivalent de WikiLeaks qui intervient dans James Bond et dans Homeland, dans le dernier Homeland aussi. Il y a une évolution parce que on voit que d'une part ce personnage est un petit fissuré, il est plus aussi monolithique que le héros d'aujourd'hui, et ça on le doit aux séries. Mais d'autre part, il y a une conviction profonde, c'est que celui qui a l'information aujourd'hui qui finalement maîtrise le monde.
Si je peux juste rajouter une chose, le scénario du dernier James Bond m'est apparu comme très pauvre par rapport au scénario de beaucoup de séries.
Bien sûr, mais parce que en une heure et demie, on a beaucoup de mal à admettre tous ces changements. Une des séries que j'aime beaucoup et sur laquelle j'ai beaucoup écrit, qui est Breaking Bad, le créateur disait que son rôle, c'était de montrer un changement du passé, du white au black.
Camille Grand, précisément, est-ce que ces séries sont, comme l'explique Dominique Moisy dans son livre, le reflet du monde tel que nous le percevons en fonction de nos peurs contemporaines, ou est-ce qu'elles indiquent aussi des symptômes de crise à venir? Cela m'a beaucoup frappé aux États-Unis, étant bloqué à Washington par le blizzard. C'était la bonne excuse pendant 3 jours pour ne regarder que des séries. Et c'est de voir aujourd'hui le nombre de séries qui touchent aux gangs mexicains, sud-américains, les narcos, etc. Autrement dit, il y a là encore cette extraordinaire perméabilité. Et c'est plutôt annonciateur de tendances plus longues. Il y aura beaucoup de séries maintenant sur les trafics de drogue, la violence, l'argent.
Alors, les séries, de ce point de vue-là, c'est une des grandes, leurs grandes forces, c'est l'adaptabilité de leurs scénaristes, qui prennent l'air du temps avec une grande flexibilité, ce qui est évidemment beaucoup plus difficile dans les grandes machines des films hollywoodiens, qui reflètent l'air du temps, mais parfois avec un petit décalage. Dans les séries actuelles, à la fois dans ces 150 séries nouvelles lancées chaque année, et au sein même d'une série, les scénaristes sont capables de, en quelque sorte, attraper le moment, la nouvelle, etc. C'est-à-dire qu'on le voit avec me semble-t-il, deux choses. C'est-à-dire, d'abord, effectivement, le glissement de personnages moins caricaturaux. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant de comparer à la Maison-Blanche avec House of Cards, où à la Maison-Blanche, c'est l'histoire d'un président démocrate, plutôt sympathique, qui lutte contre des intérêts divers.
Et avec des vraies valeurs.
Et le type, tandis que Frank Underwood est un type affreux et qui est de plus en plus affreux. C'est-à-dire que les saisons passant, ils sont chacun des personnages devient de plus en plus. Donc de ce point de vue-là, les séries reflètent nos angoisses. Alors après, sur la projection sur l'avenir, effectivement, elles saisissent dans le contexte américain, mais c'est-à-dire c'est pas un hasard si ces séries marchent moins bien chez nous. La violence des narcos et la violence au Mexique est un des grands sujets du cinéma et des séries américaines qu'on retrouve pas forcément complètement chez nous avec le même appétit du public, parce que ça va presque trop loin.
On a nos séries domestiques aussi.
Et ça on peut le traiter à travers nos séries domestiques. ou se veulent un peu annonciatrices des nouvelles peurs. Moi, je pense le retour, par exemple, le fait qu'il y ait une série qui est maintenant dans sa troisième saison sur la fabrication de la bombe atomique. Mmh. Je pense à Manhattan, qui a pas été, je crois, encore diffusée en France sur des chaînes très câblées, mais qui a pas eu la même visibilité que les autres. C'est quand même assez amusant et ça dit quelque chose, alors que c'est une série tout à fait extraordinaire là-dessus.
Alors, il y a un cas très singulier qui est celui de Hatoufim, qui est la série israélienne qui a donc inspiré Homeland. D'ailleurs, le coproducteur d'Hatoufim est aussi au générique de Homeland. Et Meryl Menehiti nous a retrouvé un extrait d'une interview de Gideon Raff, qui explique comment Israël a pu produire un tel feuilleton qui est quand même absolument bouleversant et central par rapport à la vie quotidienne en Israël aujourd'hui.
Ça a commencé en fait quand j'ai traduit en anglais le pilote et que je l'ai envoyé à Keshet, qui est donc la chaîne israélienne. Et une des choses sur lesquelles on a parlé tout le temps, c'était la différence sur comment les Américains et les Israéliens perçoivent les prisonniers de guerre. Comment le problème est vu aux États-Unis et en Israël. On a rapidement vu qu'il y avait une énorme différence entre les deux. L'Israël est un tout petit pays, l'armée est obligatoire, et quand quelque chose arrive à un soldat, c'est comme si ça se passait dans la maison de chacun des Israéliens. Aux États-Unis, vous voyez pas les cercueils revenir d'Irak. Le service n'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de mes amis qui, par exemple, ne savent pas qu'aujourd'hui un soldat israélien est prisonnier en Afghanistan depuis 2 ans et demi. Alors qu'en Israël, c'est vraiment quelque chose qui est très, très sensible, comme une blessure encore ouverte qui affecte l'ensemble de la société. Et ce qui était absolument incroyable, c'était l'idée de quelqu'un qui revienne comme un héros de guerre. Et peut-être, en fait, s'apercevoir que ce héros de guerre peut se transformer en menace. Et c'était ça qui pouvait fonctionner avec les Américains après le 11 septembre, après la guerre d'Irak par Bush.
François Jost, ce Hatoufim, encore une fois, a anticipé beaucoup d'événements qui ont affecté Israël et cette région particulière du Moyen-Orient. Après la production et la diffusion de cette série, et même avant Homeland. Donc là, ce serait plutôt l'annonce d'un symptôme plutôt que le reflet.
Je tiquais un petit peu tout à l'heure quand j'entendais parler de reflet. D'ailleurs, vous avez utilisé vous le mot de symptôme. Je peux pas parler directement d'Hatoufim, mais ce qui me frappe dans les séries américaines, c'est que même si les scénaristes sont des gens qui maîtrisent parfaitement leur écriture et qui veulent dire des choses, qui ont toujours beaucoup de choses à dire, il y a aussi ce qui leur échappe. Et ce qui leur échappe, moi, je l'appelle un symptôme. J'ai fait un petit livre qui s'appelle « De quoi les séries américaines sont-elles le symptôme ?» Et il y a des choses qui se disent dans les séries malgré elles. Par exemple, il me semble qu'il y a des problèmes fondamentaux de beaucoup de séries. C'est quelque chose qui se retrouve dans tous les discours politiques d'aujourd'hui, c'est la peur de voir les institutions trop faibles et donc des réponses individuelles aux institutions trop faibles. Alors c'est vrai dans Dexter où Dexter est motivé par le fait que on relâche les gens qui ont été faits prisonniers par la police pour des raisons d'écriture, de choses comme ça. C'est vrai dans Breaking Bad parce que le système de santé est trop mauvais, donc il faut faire de la drogue. C'est vrai dans The Wire, où c'est la chute de toutes les institutions, c'est la faiblesse de toutes les institutions. Donc en fait, c'est pratiquement le symptôme essentiel de ce qui va plus politiquement.
Mais c'est pas vrai dans Borgen. Dans Borgen, ça a été l'inverse. La série danoise, reproché à la première ministre précédente de ne pas être à la hauteur.
Mais je crois que c'est un autre aspect des séries qui est que certains théoriciens de la fiction considèrent que les séries sont hypothétiques. C'est-à-dire qu'elles font des expériences de pensée à partir de situations données. Moi, j'aime pas tellement l'expression que vous employez, Dominique Mozzi, de cours. Parce que si c'était que des cours, les étudiants ne s'intéresseraient pas autant aux séries, parce qu'ils en auraient un petit peu assez. Mais je crois que non, c'est des cas hypothétiques, c'est-à-dire qu'une fiction part d'une situation en se disant un postulat, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-ci ? Et dans le cas de Bourgogne, c'est peut-être plus comme ça qu'il faut l'analyser.
Dominique Mosier.
Alors, ce qui me frappe quand je regarde alors, la série la plus populaire, Game of Thrones, c'est l'intuition du scénariste, George R. R. Martin.
Ou des scénaristes.
À un moment donné, il y a quand même un passage où l'on voit des héros principaux, plutôt positif celui-là, John Stark, qui risque sa vie au sens propre du terme pour faire accepter les réfugiés venus du Nord. Et on ne peut pas ne pas immédiatement faire le rapprochement avec Angela Merkel et ce qui lui
arrive.
Mais
ça, c'est a posteriori, c'est notre lecture.
Mais oui, mais ce qui me frappe, Christine.
Une sacrée anticipation.
Mais oui, c'est-à-dire, quand je regarde en historien la Première Guerre mondiale, je vois ce qu'a écrit Norman Angell, grand économiste, un succès extraordinaire, des centaines de milliers d'exemplaires. Il écrit en 1912 que la guerre est impossible parce que les économies sont trop interdépendantes. Je regarde des tableaux de Munch, le cri. Je regarde des tableaux de Egon Schiele. Je regarde des dessins de Gross. Eh bien, je vois totalement autre chose. Et il y a dans la force du scénariste qui est un artiste comme l'intuition d'un monde qui vient.
Mais il y a aussi,
pas a posteriori.
Pardon, Dominique, et aussi le fait que par rapport à 1912, on est extraordinairement mieux informé, y compris les scénaristes de grand talent comme Aaron Sorkin.
Est-ce qu'on analyse mieux ?
Non, mais ça veut dire qu'il y a que la matière première est infiniment plus...
Oui, mais Dominique Mosier, excusez-moi. Juste là, en l'occurrence, l'exemple des Westeros accueillis venant du Nord. Vous avez dit tout à l'heure que c'est une logique inversée. Donc, en fait, vous avez bien compris qu'ils viennent du Sud. Donc, il ne parle pas du tout à la Angela Merkel. Il est en train de parler de ce qui se passe au Sud des États-Unis. Et ça, il n'a pas besoin... Ce n'est pas de l'anticipation. C'est un reflet direct de la situation politique américaine. Moi, je préfère... Il y a un aspect de votre livre que j'ai trouvé vraiment chouette. C'est que vous vous servez... Juste une seconde. Je vais très vite. C'est un aspect que je trouve très bien. C'est que vous dites, voilà, en fait, tous ces gens, tous ces producteurs de séries, ce sont des réalistes en termes de relations internationales. C'est-à-dire qu'en fait, ces gars sont des aroniens. Donc, ils vous décrivent un monde dans lequel la question de la puissance, la question des acteurs étatiques et non étatiques est parfaitement dans une logique qui revient au débat qu'on a pu avoir dans l'historiographie des années 60-70. Oui. Et le deuxième point, mais que vous ne dites pas, c'est à quel point ils sont libéraux, et ça rejoint ce que François Josse disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils croient dans les logiques d'acteurs. C'est-à-dire chaque individu dans un feuilleton, entre guillemets, a sa chance.
Oui, mais ça, pardon, c'est... Là, je m'excuse de parler en présence d'un vrai expert de série
qui est
François Jost. Mais la force de la série...
C'est dire à quel point le sujet...
C'est la force de la série, quand même, c'est qu'on a le temps du temps. On a la possibilité de suivre une multitude de héros. Dans un film, on découvre des héros. Dans une série, on les fréquente. Et ce qui m'a frappé le plus, c'est qu'en réalité, le temps de la série correspond à une période actuelle où il n'y a plus de héros bipolaires, il y a une multitude d'acteurs, on ne sait plus exactement qui fait qui, et ça correspond à la réalité. Cette multitude que l'on suit, c'est le monde post-bipolaire. Et alors, le mot bipolaire,
il est ambigu parce que
beaucoup sont justement bipolaires.
C'est exactement là où j'allais. Or, la bipolarité, elle est psychiatrique. Elle est dans le choix de l'héroïne de Homeland.
On a beaucoup parlé jusqu'ici de Game of Thrones, de beaucoup de séries américaines. On a parlé évidemment de Downton Abbey, on a parlé de deux séries scandinaves. Mais ce qu'il faut savoir, Eric Scholl, bonjour, patron de Courrier International, notre partenaire, c'est que le tout premier producteur mondial de séries, c'est la Turquie.
Oui, et la Turquie qui, effectivement, on a retrouvé, j'ai retrouvé un article du journal turc Sabah, qui, faut quand même tout de suite le préciser, le journal turc Sabah, c'est un journal qui est très lié au gouvernement turc et qui vantait, il y a quelques jours, le succès des séries télé turques en Amérique latine. Un succès qui lie au voyage du président Erdogan en Amérique latine. Il y a eu pas moins de 6 voyages au cours de ces derniers mois.
Bah, le président Hollande pourrait peut-être s'en inspirer pour diffuser les séries françaises.
Pour le journaliste de ce quotidien d'Istanbul, la diplomatie turque et les séries télévisées turques fonctionnent ensemble avec, selon lui, les mêmes codes. Je cite, les deux sont tournées vers les gens, elles reflètent leurs émotions de façon naturelle et elles s'appuient aussi sur des drames extérieurs qui témoignent des contrastes entre l'Orient et l'Occident. Alors, dit d'une autre façon, les séries sont perçues par le pouvoir turc comme un moyen de propagande, une propagande qui rencontre son public. Le quotidien d'Istanbul rappelle qu'il y a 30 ans, les programmes venus d'Amérique latine envahissaient les écrans turcs, alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Il cite l'exemple de la série Silla, une série turque des années 2000, qui a été diffusée au Chili et qui a fait une audience comparable à celle d'un match de foot, du match de foot de la Coupe d'Amérique opposant le Chili au Brésil, explique le journaliste.
Le Brésil qui continue de produire énormément de séries, de plus en plus sophistiquées d'ailleurs.
Exactement. Alors par exemple, les 10 commandements, une série qui a fait un carton plein l'an dernier. On est très loin des telenovelas des années 90. Cette série, dont la première saison a été diffusée quotidiennement l'année dernière, 176 épisodes, a été l'un des plus grands succès télévisés de ces dernières années du Brésil, raconte le journal britannique Le Guardian. Et ce que note Le Guardian, qui s'interroge sur les raisons de ce succès, c'est que cette série, qui retrace donc la vie de Moïse avec, faut le dire, beaucoup de liberté, a été produite par la chaîne Record TV. Et à qui appartient cette chaîne télévisée, concurrente de Globo? Eh bien, au milliardaire brésilien Edir Macedo, qui est aussi le fondateur de l'église évangélique du Royaume-Uni de Dieu, précise Le Guardian. La bonne audience de la série viendrait donc du fait qu'un nombre important de ses téléspectateurs sont issus du mouvement évangélique, un courant religieux en plein boom actuellement au Brésil. Ce n'est pas la seule explication de la réussite des 10 commandements. Il s'agit aussi d'une série très soignée, précise Le Guardian. Chaque épisode coûte en moyenne 230 000 $, avec des lieux de tournage extraordinaires au Chili, en Égypte et beaucoup d'effets spéciaux.
Et les Russes aussi se sont mis aux séries dans un autre style.
On a parlé beaucoup de Game of Thrones. D'ailleurs, il faut savoir que les prénoms des acteurs des Game of Thrones sont en train d'être repris aujourd'hui en Russie. Alors, le magazine Newsweek rapporte que les producteurs russes s'apprêtent à tourner une série inspirée de Game of Thrones sur la saga des Romanov, la dernière famille des tsars, qui a régné en Russie pendant 3 siècles jusqu'en 1917, jusqu'à la Révolution. Cette série intitulée Epoca Razsveta, soit l'âge de la floraison, sortira en 2018 et comprendra 12 saisons de 12 épisodes.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Dominique Moïse des Romanov à la famille Crowley. Le succès mondial de ce feuilleton britannique admirablement filmé, admirablement joué, des décors somptueux, des costumes extraordinaires, Maggie Smith en duchesse douairière, enfin tout ça, ce sont quand même des moments aussi de très très bons spectacles. Mais comment expliquez-vous la fascination des Chinois en particulier ou des Asiatiques en général pour cette série?
Alors, il y a beaucoup d'Asiatiques qui adorent participer au concert du Nouvel An à Vienne et rester pour faire le bal dans le Grand Palais. L'Europe, pour eux, c'est un musée de l'art de vivre. Est-ce que ça correspond à cela? Est-ce que c'est un hommage au grand d'hier par le grand de demain? Vous étiez grand hier, ben maintenant vous me passez la main, maintenant vous êtes parfait dans... Est-ce, je ne sais pas, il y a cette idée que vous pouvez soudain vous retrouver une tasse de thé à la main dans un château anglais. Julian Fellowes, qui est l'auteur Downton Abbey, expliquait le succès mondial de sa série, qu'il avait surpris lui-même, par une raison géopolitique, pardon. Il disait, il y a un désir d'ordre, et on retrouve cet ordre dans ce château anglais. Il y a un désir de respect des hiérarchies à l'intérieur de chaque classe, upstairs and downstairs. Ouais. Et en réalité, dans mon livre, j'oppose Game of Thrones et Downton Abbey. Le succès de l'un entraîne le succès de l'autre. On peut passer de la fascination du chaos à la nostalgie de l'ordre.
L'ordre étant incarné par le majordome. Et alors, il y a cette histoire vraie, donc de l'acteur jouant Carson, qui se promène en vélo au temple d'Angkor. Ouais. Il était en vacances. Et alors, il est arrêté par une nuée de touristes asiatiques de toute nationalité, et pas seulement des Japonais, des Chinois, etc., qui lui demandent comment il va, comment va sa santé, est-ce qu'il va épouser Mrs. Hughes, c'est-à-dire la gouvernante. Donc, on voit à quel point, encore une fois, la force de ces personnages est tout à fait remarquable. François Jost, venons-en à la production française. On a longtemps souligné le fait, et ça a commencé avec le cinéma, que nous avions, nous, en France, toujours, comment dire ça poliment, une forme de frilosité ou de retard ou de prudence par rapport à l'histoire brûlante, je pense à la guerre d'Algérie ou à l'Indochine, ou par rapport aux péripéties politiciennes d'aujourd'hui. Est-ce que c'est en train de changer ?
Alors, je pense que si on renvoie à l'histoire, il y a une série comme Un village français qui a quand même été très intéressante parce qu'elle a donné une autre vision moins caricaturale de l'occupation et de la libération. Mais récemment, on a Le Baron Noir, effectivement, ou Baron Noir, qui est une série qui est beaucoup moins frileuse que ce qu'on avait eu jusqu'à présent. Si on compare Les Hommes de l'Ombre, qui est une série qui a été diffusée il y a 2-3 ans, où l'héroïne, je crois, qui était jouée par Nathalie Baye, hésitait entre quel parti elle allait choisir pour devenir présidente de la République, etc. Et le Baron Noir, où c'est ouvertement une lutte à l'intérieur du PS d'aujourd'hui.
Et à Dunkerque.
On mesure qu'il y a eu vraiment un progrès, cette série. Mais évidemment, c'est une série, comme beaucoup de séries très, très intéressantes qui est sur une télé par câble, comme HBO aux États-Unis. Et donc, je ne suis pas sûr qu'elle serait passée aussi facilement aujourd'hui si elle avait été sur le service public. Parce qu'évidemment, là aussi, on pourrait avoir des réactions comme les Russes à propos d'Occupy.
Vous avez une vision du service public.
Parce que la série aura une diffusion beaucoup plus grande. Et là, évidemment, il faut quand même être abonné à Canal+. Donc, c'est assez différent.
Fabrice Amelédon.
Non, mais François Jost touche du doigt à un problème qu'on a. C'est-à-dire qu'effectivement, le service public a le souci, justement, du public, mais au sens public français. Et ne raisonne pas forcément en termes d'exportation. Or, il faut savoir qu'en fait, sur le marché international pour exporter des séries, il faut avoir plusieurs saisons, plus de 3. Ah oui. Or, c'est difficile pour le service public de s'engager, de dire je vais vous faire tout de suite 3 saisons. Alors qu'un studio américain qui a les marges d'investissement nécessaires peut dire je signe, je vais faire 3 saisons là-dessus. Une fois que le pilote a été fait, que ça a marché, qu'il a eu les retours d'audience, ils prennent le risque. Nous, dans notre investissement public, justement parce que c'est de l'argent public et parce que les acteurs de France Télévisions sont extrêmement sensibles à ces questions de respect.
Oui, mais
ils ne sont
pas les seuls producteurs.
S'il n'y a pas la commande, s'il n'y a pas la commande du distributeur français de chaîne, en fait, aucun producteur en France ne peut investir. Faut être clair là-dessus. Même Versailles, qui est pourtant un investissement massif de 27 millions d'euros, il y a quand même 11 millions qui sont mis par le diffuseur, par Canal+. Donc il faut avoir présent ça à l'esprit. Si l'investisseur public ne fait pas ce jeu-là, eh ben c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il y a tout un débat en ce moment pour savoir comment réformer ce système pour créer des champions à l'export.
Si on en revient, Camille Grand, à cette idée qui a été développée par un célèbre politologue américain qui s'appelle Joseph Nye, l'idée du soft power, qu'aujourd'hui le pouvoir culturel, pour simplifier le terme, est plus important, plus efficace que d'autres formes de pouvoir. On s'aperçoit que les Américains aujourd'hui ont abandonné l'idée de patriotisme qu'ils ont tellement exalté pendant si longtemps, et qu'au fond, on est maintenant dans un soft power qui est parfois, et Dominique Moisy le rappelait tout à l'heure, qui est parfois auto-mutilant, en quelque sorte, parce que, voilà, ça projette aussi des images de l'Amérique, ou de soldats américains, de militaires en action.
Alors, ce qui est vrai, c'est que la production de séries américaines, et ça c'est effectivement un développement depuis 2001, renvoie, c'était déjà le cas depuis longtemps avec le cinéma, mais maintenant avec les séries et avec leur audience planétaire, on renvoie une image de l'Amérique qui est quand même assez troublante pour le public. C'est-à-dire qu'effectivement, les membres du Parti communiste chinois peuvent se dire, après tout, House of Cards montre que c'est beaucoup plus violent chez eux que chez nous. Populations du monde musulman peuvent dire, quand on voit comment ils traitent les terroristes suspects dans 24 heures ou dans Homeland, on a bien raison de contester ce leadership américain. Donc il y a quelque chose d'assez ambigu dans la manière dont l'Amérique se projette elle-même vis-à-vis de l'extérieur. Et finalement, on a, dans les séries les plus récentes, peu de séries à la gloire des États-Unis. Elles restent très américano-centrées, c'est-à-dire que tout se passe à Washington. Il n'y a pas encore de série américaine qui nous décrive...
Ah si, Homeland est à Berlin.
Bruxelles comme le centre du monde, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même la force des séries américaines, c'est que ces grands mythes qui soient positif ou négatif, que soit la CIA, les mécanismes du pouvoir américain sont audibles par l'ensemble du monde. C'est sans doute une des limites à notre capacité à exporter ce type de modèle. Et il faut que les séries soient très bonnes comme Borgen pour que tout d'un coup on se passionne pour la démocratie danoise.
Certes.
Mais je crois qu'on peut aller plus loin. Elles sont quand même très critiques, non pas contre l'Amérique, mais contre le capitalisme. Il y a vraiment une critique du capitalisme. Alors, dans une série comme Deadwood, qui se passe en 1876, où on montre que le capitalisme est né dans la violence, que Hearst, qui était un sénateur tout à fait pacifique, là est présenté comme un assassin, et tout ce... il prend un journal, il prend aussi l'information, donc il y a une critique sur la naissance, sur le mythe fondateur du capitalisme, qui existe aussi dans Breaking Bad. C'est-à-dire, dans Breaking Bad, on voit quelqu'un qui part de rien, qui arrive à amasser une fortune absolument considérable, qui ne sert à rien, parce qu'il ne peut même plus la blanchir, et dont ses enfants ne veulent même pas, donc alors qu'il a censément fait ça pour sa famille. Donc c'est un échec, ça tourne à vide. C'est-à-dire que ça montre que le système capitaliste est au fond quelque chose qui tourne totalement à vide. Donc, c'est très critique.
Moi, j'ai une question. Est-ce que vous soupçonnez les scénaristes des séries d'être un petit peu comme cette équipe de scénaristes dans le dernier film des frères Cohen de Ave César, qui sont des communistes...
Qui ne sont pas vus encore.
Des communistes cachés.
Vous savez, il n'y a pas pire... Enfin, si on veut avoir des critiques du capitalisme, il faut aller dans certaines universités américaines. Oui, il n'y en a pas, il n'y a pas pire.
Mais, non, le point qui me paraît central, c'est en réalité une dissociation entre le hard power, le pouvoir de contraindre, et le soft power, le pouvoir de convaincre. Or, la force des séries américaines, c'est d'utiliser la faiblesse de l'Amérique, de les vendre à l'extérieur et de dire « Regardez, comme je suis démocratique. Les Russes ne pourraient pas faire ça. Les Chinois n'en rêveraient pas. »
Ça, c'est
vrai.
Moi,
je le fais. Et il y a une sorte de... Au fond, ils n'occupent plus le terrain au sens physique, géographique du terme, mais ils envahissent toujours davantage l'imaginaire du monde, et ils le font grâce à leur faiblesse. Et au fond, on est passé d'une sacralisation par l'image, sacralisation de Dieu, sacralisation de la nation, à une désacralisation par l'image, mais qui en réalité est utilisée comme une force par l'Amérique.
Enfin, une force et une extraordinaire vulnérabilité, Fabrice Daimela, parce que c'est quand même la démonstration... Le spectacle d'une société fracturée.
C'est vrai, mais je pense qu'elle est reçue un petit peu différemment. Parce qu'il faut bien le penser, dans la plupart des pays, les grandes séries sont des séries nationales. Un peu l'équivalent de Plus belle la vie. Il faut le rappeler. C'est-à-dire que ces grandes séries américaines dont on parle, en général, elles sont troisième, quatrième, elles viennent après. Sauf peut-être en France, où on est le pays fan et consommateur le maximal à ce point-là de séries américaines. Et ça, c'est très important à considérer. Parce que ça veut dire quand même que la mécanique mécanique de série en sens de désenchantement, au sens de peur, telle que l'entend Dominique Moisy, elle n'est pas forcément la vraie mécanique dominante. Elle est le complément aux séries domestiques plutôt rassurantes, plutôt positives, des merdardes, je dirais. Et c'est ça qui me frappe. Il faut penser que ce n'est pas forcément le même effet que ça pouvait avoir dans les années avant la fin de la guerre froide, oui. Où là, effectivement, les séries avaient pour objectif de vendre un mode de vie.
Mais alors, je crois qu'il y a un point qui me paraît fondamental, c'est que l'Amérique importe ses thèmes. Regardez Homeland, ça vient de Ratoufim, House of Cards, ça vient d'une version anglaise, britannique, et elle exporte ensuite ses séries. Quand vous voyez Ratoufim, vous voyez une série israélienne. Quand vous voyez la version anglaise de House of Cards, vous voyez une série britannique. Quand vous voyez leur équivalent américain, ça devient une série universelle. Ce n'est plus la crise de la politique.
Non, ça c'est le français habitué au format américain qui le dit. Parce que justement, la vision qu'on a, nous, de l'universalité, il faut bien imaginer qu'elle n'est pas exactement pensée de la même manière au Caire, à Jakarta.
Pas dans les pays émergents. Mais,
ou à Porto Alegre.
Tout à fait. Mais quand même, il y a cette vision. L'Amérique, c'est le monde, je veux dire. C'est là où c'est la force ou la faiblesse.
Et ça, c'est vrai depuis Hollywood, oui, Camille Grand.
Moi, je crois qu'il faut effectivement se mettre un peu à la place de ceux qui regardent. Et moi, on parlait de Dallas tout à l'heure. Il y a une chose qui m'avait beaucoup amusé en Turquie, à l'époque de Dallas, où je voyais des paysans turcs regarder Dallas avec passion et m'expliquant que c'est une série turque. Et je dis, non mais regardez, ça se passe en Amérique. Oui, mais c'est des Turcs qui ont réussi en Amérique. Et je dis, mais comment, pourquoi? Bah, si, regardez, il parle turc. Et donc, on voit à travers ce regard du spectateur, hein, du téléspectateur, il peut s'approprier les choses de manière très diverse. C'est-à-dire qu'il peut regarder une série qui met en scène des espions américains et les regarder comme des gens fourbes et terribles, là où ce sont des héros en Occident. Il peut détourner finalement l'intention du scénariste de multiples manières.
C'est Katz et Lieb qui montrent bien ça et qui montrent comment les Juifs venant d'Union soviétique en Israël regardent Dallas comme une leçon de capitalisme, tandis que ceux qui viennent du Maroc le regardent comme une histoire d'amour.
Oui, mais il y a aussi dans les pays émergents, l'économiste Daniel Cohen démontre que des séries type Dallas ont eu un impact considérable sur la natalité dans le tiers-monde. C'est-à-dire, que regardaient les gens? La richesse, la voiture, la maison.
Et mais ils se plus disaient... simplement, ils regardaient la famille. Et c'est une chose fondamentale.
Il y a moins d'enfants.
Ils regardaient la famille, il pouvait y avoir... C'était des Texans qui étaient déjà aux yeux des New-Yorkais un peu exotiques et un peu ridicules.
Ils sont toujours.
Mais simplement, ça a touché tout le monde parce qu'il n'était question que de mariage, de divorce, de naissance, d'adoption. Et donc, évidemment, tout le monde, c'est universel. C'est ça l'universalité. C'est pas l'Amérique. C'est l'astuce des Américains. C'est de trouver des scénarios qui fonctionnent. Aujourd'hui, les scénarios dont on parle sont des scénarios qui jouent tous sur la famille. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de héros comme Columbo qui parle de sa femme, mais dont on la voit jamais. Tous les héros d'aujourd'hui ont une famille et ils ont des dilemmes par rapport à la famille. Parce que ça leur pose des problèmes parfois.
Alors, c'est vrai de Ratoufim, bien évidemment, c'est même le nœud de la série. Ce n'est pas vrai d'Homeland. Enfin, c'est beaucoup moins vrai d'Homeland au fil des séries.
Homeland, le héros revient à sa femme et est avec un autre. Après, il réussit plus très bien.
Certes, mais après, il disparaît.
C'est d'autres choses.
Pas vu la série 3 ou la série 4 ou la série 5, mais le personnage central est une femme seule.
Oui. Elle a même un enfant.
Oui, c'est pas une famille au sens de Dallas.
Justement.
Attention.
Mais elle a des problèmes
de. C'est la présence absente.
Oui, de rupture, etc., comme dans la société d'aujourd'hui.
Mais dans Game of Thrones, la famille, on en parle toujours et on ne la respecte jamais.
On se tue
entre familles. Donc tout le monde dit le principe de base, c'est la famille.
Mais c'est vrai de toutes les séries américaines. C'est-à-dire que le point ultime, les méchants, ce dont j'ai parlé souvent, les méchants sont des gens qui n'ont pas de famille. Et ça, c'est un péché pratiquement.
Oui, mais dans Game of Thrones, on a famille et on la tue. Et on se tue en famille.
Ça, c'est des très méchants. Oui.
Mais il suffit de suivre la campagne présidentielle américaine aujourd'hui et on retrouve absolument tous les thèmes.
Bien sûr.
De la famille, bien sûr, À la religion,
jusqu'aux
qui est évidemment
enfants,
centrale, enfants, jusqu'aux ouais. enfants, ouais. et bien évidemment le terrorisme, le bien djihadisme, sûr. Et ces querelles sur les valeurs.
Et la crise de la démocratie.
Et la crise de la démocratie, dont certains candidats peuvent être considérés comme étant, sinon l'illustration, en tout cas une forme de caricature, en tout cas pour le moment, et de symptômes. Le mot de la fin, d'un mot, Dominique Moisy, est-ce que l'Europe, dans sa diversité culturelle, pourra un jour produire une série pan-européenne ? Ça a toujours échoué jusqu'ici, hein, je le dis d'emblée, et même pour les séries criminelles. Mais est-ce que ce soft power est quelque chose qui va échapper à l'Europe en tant que telle ?
Si vous regardez la série Occupied, le portrait qui est dressé de l'Europe est absolument accablant. Un commissaire français qui prend ses instructions, non pas de Bruxelles, mais de la chancelière. Il est en contact avec Berlin. Et l'Europe trahit la Norvège de la manière la plus épouvantable. Donc je ne suis pas sûr qu'on approche dans cette direction que nous souhaitons vivement, mais qui ne me paraît pas plus réaliste aujourd'hui.
Merci à tous pour cette démonstration d'érudition télévisuelle tout à fait remarquable. Merci à vous, Dominique Moisy. Vous enseignez au King's College de Londres et vous venez de publier chez Stock La géopolitique des séries ou le triomphe de la peur. François Jost, professeur à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, vous dirigez une nouvelle collection sur les séries qui s'appelle À suivre. C'est chez Atland. Et vous publiez prochainement, m'avez-vous dit, Breaking Bad, le diable est dans les détails. Vous dirigez aussi la revue Télévision aux éditions CNRS et précisément le prochain numéro s'intitule « Repenser le récit avec les séries télévisées ». Camille Grand, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, ça c'est quand même, comment dire, infiniment... Je n'ose pas dire plus sérieux, mais plus central par rapport à notre discussion.
C'est de la blague quand même.
Merci aussi à vous, Fabrice Dalméda, professeur à l'Université Paris II Panthéon Assas au sein de l'Institut français de presse. Vous avez publié aux éditions La Martinière une histoire mondiale de la propagande et en 2015, toujours aux éditions La Martinière avec Marjorie Philibert, sur les traces des serial killers à chaque époque.
Oui, les questions de série.
Tueurs. Merci à Eric Scholl qui a visionné toutes les séries turques dont il nous a parlé. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique, Myriam Guillot. Meryl Moneghetti, qui connaît tout Game of Thrones par cœur, a trouvé quelques pépites dans les archives, et notamment le fameux « Winter is coming » qui met immédiatement notre ami Dominique Moisy en émoi. Très bon week-end, merci à tous.